Le château de Colossi. Le château de Colossi, ou la commanderie de Colossi, est situé à 14 km à l'ouest de Lemessos. Il s'agit d'un bâtiment à trois étages, construit en pierre calcaire durant la domination franque, et en particulier au début du XIIIe siècle. Sa forme actuelle date du XVe siècle. Cependant, diverses adjonctions et modifications ont été effectuées au cours de la domination ottomane, de la fin du XVIe au XIXe siècle. Ce château constitue l'une des fortifications les plus importantes qui subsistent à Chypre dès la domination franque et est directement liée à la présence des ordres des chevaliers moines, l'ordre du Temple et l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem sur l'île. Le château, autrement connu comme la commanderie, est encadré par l'aqueduc, la sucrerie et plus loin, l'église byzantine d'Agios Eustathios. Il est aussi lié à la production de vins d'excellente qualité, et notamment du vin de Commandaria pendant et après le Moyen-Âge. Le château de Colossi est un monument aussi important que les châteaux de Rhodes, de Malte et le Krach des Chevaliers en Syrie. Examinons maintenant les faits historiques associés à ce monument et laissons libre cours à notre imagination pour faire le tour du monument. En 1190, le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion partit avec le roi de France Philippe Auguste et le roi d'Allemagne Frédéric Barberousse pour la troisième croisade, 1189-1192, ayant pour but la délivrance de la Terre Sainte. Les deux premiers rois empruntèrent la voie maritime, tandis que le troisième roi partit par voie terrestre. Prise dans une tempête, la flotte de Richard s'arrêta à Messine. D'autres sources mentionnent tout simplement la Sicile, et y passa l'hiver. Là, le roi Richard se fiança à Bérengère, fille du roi de Navarre. Au printemps, il quitta la Sicile. Une nouvelle tempête amena sa flotte à Rhodes, mais quatre de ses navires se dirigèrent vers Chypre. Un seul navire, à bord duquel se trouvait sa fiancée, Bérengère de Navarre, et sa sœur Jeanne, reine de Sicile, put s'échouer devant le port de Lemessos. Dès qu'il eut connaissance de ces faits, le gouverneur byzantin de Chypre, Isaac Doukas Komnène, qui régnait sur Chypre après s'être détaché de l'Empire byzantin durant le règne d'Andronique Ier Komnène et déclaré politiquement indépendant et souverain de Chypre, ordonna l'emprisonnement des naufragés. En même temps, les biens des personnes noyées furent confisqués et les rescapés furent dévalisés. Isaac a aussi essayé de prendre Bérengère et Jeanne comme otages. Cette action fut le résultat d'une alliance entre Isaac et le sultan d'Égypte et de Syrie, Saladin. Comme il avait été prévu, Isaac avait défendu de laisser aborder dans l'île aucun navire des croisés et avait décidé de les priver de tout approvisionnement. Pourtant, Isaac n'a pas pu atteindre son but, car un mois plus tard, le roi Richard aborda l'île avec sa flotte provenant de l'île de Rhodes. C'est en vain que Richard, par le biais des envoyés, essaya de demander des explications et indemnités. Isaac montra qu'il n'avait pas peur de la force militaire de Richard, et selon le chroniqueur Florio Bustron, il se retira au village de Killany. Sans rencontrer d'obstacle, Richard occupa Lemessos, et trois jours plus tard, il proposa à Isaac une rencontre à Colossi. Isaac accepta sa proposition et l'entrevue fut réalisée. Si grande était sa peur qu'Isaac accepta de faire de multiples concessions. Selon le chroniqueur Cobham, il était même prêt à remettre au roi sa fille comme gage de son alliance et de sa fidélité. Pourtant, plus tard, en appréciant que les forces du roi Richard étaient moins considérables qu'il l'avait initialement prévu, Isaac lui fit annoncer que s'il ne quittait pas bientôt l'île de Chypre, il marcherait contre lui. Indigné, Richard fit débarquer sa cavalerie, rassembla 600 hommes armés et se mit en route pour Colossi afin de combattre les troupes d'Isaac. Suite à sa défaite, Isaac trouva refuge dans la capitale, Lefkosia. Vainqueur à Colossi, le roi Richard retourna à Lemessos, où selon la tradition, il célébra son mariage avec Bérengère de Navarre. La cérémonie eut lieu le dimanche 12 mai 1191, en la chapelle Saint-Georges, à l'intérieur de l'actuel château médiéval de Lemessos. Plusieurs chercheurs excluent toutefois l'idée que la cérémonie ait eu lieu à l'intérieur du château médiéval, en soulignant le fait que le château n'existait pas à cette époque-là. la chapelle était probablement située dans une autre partie de la ville. Cependant, il s'agit d'un événement très important, car c'est la première fois qu'une princesse est couronnée reine d'Angleterre en dehors de l'Angleterre, d'après l'architecte George Jeffery. Richard s'engagea à la poursuite systématique d'Isaac, qui avait déjà rassemblé de nombreuses troupes de cavalerie et d'infanterie à Messaoria. Le roi s'avança par la route littorale vers l'est et se dirigea vers la ville sans défense d'Amorostos à l'est. Il occupa la ville après avoir lutté à Treminsunta contre les troupes d'Isaac, qui fut obligé de battre en retraite. Le roi Richard continua avec la prise de la capitale et des bastions de Pendadactylos, Saint-Hilarion, Bufavento et Cantaras. En même temps, Guy de Lusignan, allié de Richard, occupa le fort de Quirénia, où il arrêta et déteint la femme et la fille d'Isaac afin d'assurer leur propre sécurité. Persécuté jusqu'à son emprisonnement, Isaac fut finalement enfermé au château de Marga en Syrie, l'une des principales forteresses des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Lié de chaînes d'or ou d'argent, selon les chroniqueurs du temps, Isaac mourut 4 ans après son enfermement. Il est donc évident que la conquête de Chypre par le roi Richard fut très importante pour les croisés, car ils avaient déjà perdu leur territoire à Acre, en Terre Sainte. Par conséquent, l'île de Chypre pourrait être utilisée comme base d'approvisionnement lors des nouvelles expéditions contre les Turcs ottomans. Ainsi, au mois de mai 1191, l'île de Chypre revêt une importance accrue. Avant de partir pour la Syrie, le roi Richard désigna 2 représentants, remplaça les soldats locaux par ses propres soldats et appliqua la loi franque, c'est-à-dire qu'il créa des fiefs en concédant à ses soldats la moitié de la terre qui appartenait à la population locale. Cependant, il s'avéra difficile pour Richard de contrôler l'île de Chypre avec ses propres forces. Donc, il décida de donner la priorité à son but, à savoir la délivrance de la Terre Sainte. Il vendit l'île à l'ordre du Temple, moyennant 400 000 besants d'or, monnaie de Byzance, et un complément de 600 000 besants à payer par versement annuel. Le contrôle de Chypre n'en présenta pas moins de difficultés pour les Templiers, à cause des insurrections continues des Chypriotes. L'année suivante, en 1192, Guy de Lusignan fit l'acquisition de l'île de Chypre que les chevaliers ne voulaient plus conserver. Les conditions de la vente furent les mêmes que celles de la cession faite précédemment à l'ordre du Temple. Guy de Lusignan s'engagea à rembourser à l'ordre les besants d'or déjà remis au roi Richard et à payer le complément au roi. Originaire du Poitou, Guy de Lusignan devint, grâce à cet accord, le fondateur d'une dynastie qui régna sur l'île de Chypre pendant une période de 3 siècles, à savoir jusqu'en 1489. La domination franque fut une période de prospérité pour Chypre. Le commerce connut une croissance florissante et l'île s'affirma comme lieu de transit. En effet, selon la description du chroniqueur Léonce Maqueras, la ville d'Amorostos fut le premier port et le centre commercial non seulement de l'île, mais aussi de toute la Méditerranée orientale. Pour maintenir la stabilité et éviter les insurrections, Guy de Lusignan essaya d'attirer des étrangers en accordant divers privilèges, avantages et fiefs en échange de leurs services religieux ou militaires. Un grand nombre de personnes répondirent à son appel. Parmi eux, les Augustins s'installèrent à Bella Païs, les Dominicains et les Franciscains à Lefkosia, à Amorostos et Lemessos, et les Bénédictins à Lefkosia. Plus tard, les Bénédictins obtinrent le monastère de Stavrovouni. De plus, beaucoup de chevaliers répondirent aussi à l'invitation, entre autres les ordres militaires religieux des Hospitaliers et des Templiers. L'accord intervenu fut basé sur les Assises. Il s'agit d'un recueil de lois élaboré lors du XIIe siècle, conformément aux traditions et aux us et coutumes des habitants du royaume. Selon la tradition, les lois furent rédigées pour la première fois en français au XIIIe siècle par Jean d'Ibelin et Philippe de Novare. Les assises furent aussi rédigées en grec au XIIIe siècle pour le compte du royaume de Chypre et quelques régions grecques dominées par les Francs. La suite de la version grecque des assises de Jérusalem et la chronique de Léonce Maqueras et de Boustron. Voyons d'abord comment les différents ordres ont été fondés. L'ordre du Temple, dont les membres étaient appelés les Templiers, a été fondé en 1118 par un groupe de chevaliers français de Jérusalem dont l'objectif fut d'accompagner et de protéger les pèlerins en route pour Jérusalem contre les attaques des Arabes. Le nom Templier, qui vient du mot temple, templum en latin, ou chevalier du Temple, qui fait référence au Temple Kubat es Sacra, dôme du rocher, près de l'emplacement du Temple de Salomon, que le roi Baudouin II de Palestine octroya aux chevaliers. La rédaction de la règle de l'ordre et la définition de la hiérarchie ont eu lieu 10 ans plus tard. Le chef suprême de l'ordre fut nommé grand maître et avait le rang de prince. En 1148, le pape leur accorda le privilège d'exemption fiscale. L'ordre du Temple prit un essor considérable et installa des commanderies en Occident. Il acquit ainsi domaines et forteresses et offrait des services bancaires aux pèlerins. Plus tard, les Templiers développèrent aussi un réseau bancaire en Europe. Il faut souligner qu'ils prêtaient de l'argent même au roi de France. Après la prise de Saint-Jean d'Acre par les croisés, les Templiers vinrent s'installer sur l'île de Chypre. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem est l'ordre religieux et militaire le plus ancien. Il fut fondé par Grégoire le Grand à la fin du VIe siècle, ayant pour but d'accueillir et de soigner les pèlerins en Terre Sainte. Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem sont aussi nommés hospitaliers, johannites, chevaliers de Rhône et chevaliers de Malte. L'ordre fut restauré pendant la période 1048-1070, lorsqu'il fut établi à Jérusalem et prit le nom d'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. La prise de cette ville par les croisés, en 1099, permit à l'ordre de jouer un rôle de premier plan et de revêtir un caractère militaire. L'ordre s'installa à Saint-Jean d'Acre, mais en 1291, les hospitaliers se retirèrent à Chypre. Mais quel est le rapport entre le château de Colossi et les ordres du Temple de Saint-Jean de Jérusalem? Le château de Colossi a appartenu successivement à ces deux ordres, qui sont aussi liés quant à d'autres châteaux, comme ceux de Hierokitia et de Gastria, dont les vestiges sont encore visibles, qu'à des régions entières à Paphos, Lemessos, Lefkosia, y compris d'autres parties de l'île. Jusqu'en 1210, les terres de Colossi furent la propriété d'un certain Garinus de Colosse. Cependant, elles sont passées aux mains de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem lorsque le roi Hugues Ier prit la région en indemnisant le propriétaire précédent. C'est cette année-là que, selon l'historien Hill, fut construit le château de Colossi, dont les vestiges subsistent encore à droite et à gauche du monument actuel. En même temps, les hospitaliers avaient le droit de faire moudre leurs grains au moulin de Kytréa. Déjà installés sur l'île, les chevaliers de Saint-Jean contribuaient au maintien de la domination latine, notamment lorsque Amaury II de Lusignan, 1194-1205, qui avait été couronné roi de Chypre sous le nom d'Amaury Ier de Chypre, réussit, après son mariage à Isabelle de Jérusalem, veuve d'Henri II de Champagne, à être couronné roi de Jérusalem par l'empereur Henri VI. Ses devoirs contre les Turcs ottomans et la reconquête de la sainte ville de Jérusalem obligèrent le roi Amaury à rester loin de l'île de Chypre. La présence donc des hospitaliers sur l'île fut d'une importance capitale. Après la chute d'Acre en 1291, les hospitaliers et les templiers s'installèrent à Lemessos, d'où les chevaliers exerçaient le pouvoir et devinrent successivement propriétaires du château de Colossi. En 1302, le chef des hospitaliers décida à rendre Colossi centre de toute activité de son ordre, à l'instar du manoir à Acre lors de leur établissement à Saint-Jean d'Acre. 4 ans plus tard, le château passa aux mains des templiers lorsqu'Amaury II, seigneur de Tyr, avec l'aide du grand maître des templiers, écarta du trône son frère Henri II soutenu par les hospitaliers. Arguant de l'incapacité à régner d'Henri II, il était épileptique, Amaury II complota avec son frère Emery II, Camerin de Lusignan, et une partie de la noblesse, et se fit proclamer gouverneur et régent de Chypre. Amaury II instaura un régime autoritaire qui ne survécut que 4 ans, jusqu'en 1310, année de son assassinat. Son frère Henri II lui succéda sur le trône. la prise de Colossie par les Templiers ne dura pas longtemps. Le pouvoir et la prospérité des Templiers en Europe suscitèrent l'hostilité des autres ordres religieux, du pape et du roi de France. Accusés d'hérésie et d'immoralité, les Templiers de Chypre furent emprisonnés dans le château de Kyrenia au nord en 1310. Leur procès aboutit 3 ans plus tard. Les prisonniers furent condamnés à mort après avoir été soumis à la torture. En 1310, le château et les richesses de Colossie passèrent aux mains des hospitaliers. Dès lors, sous la conduite de leur grand maître, Foulque de Villaret, l'ordre s'établit à Rhodes. Pourtant, l'ordre continue à utiliser la grande commanderie à Colossie. Parmi les terres données aux ordres des chevaliers, la commanderie de Colossie était la plus importante et fut réputée pour ses richesses. La plus grande partie de ses richesses se trouvait dans le district de Lemessos et incluait 60 villages. Les terres appartenant au domaine de Colossie avaient une valeur considérable, grâce à la production notamment de coton, de sucre, de l'huile et des vins exquis en grande quantité. Souvent, les hospitaliers étaient plus privilégiés en ce qui concerne la quantité d'eau nécessaire pour l'irrigation que leurs voisins, la famille Cornaro, propriétaire des plantations de canne à sucre. Le château est étroitement lié à la fameuse commandaria, vin rouge doux et excellent que le poète Homère décrit comme le Nama, aux deux sources de Chypre. Son nom actuel provient de la commanderie établie dans le château. Fin connaisseur du vin de haute qualité et de ses méthodes de production, les hospitaliers ont contribué considérablement au développement du commerce de la commandaria. La plus grande quantité du vin produit partit à destination de l'Angleterre, où il fut très apprécié par la cour. Dès le début du XIVe siècle, les références au vin de Chypre, et notamment à la commandaria, abondent et sont très intéressantes selon Cobham. Allons maintenant faire un tour dans le monument. Au premier regard, on voit le château qui se dresse, imposant et majestueux, sur une terre verdoyante, fertile et idyllique. De plus près, on peut admirer les jardins du monument où se mêlent les plantes indigènes et importées. Parmi elles, on peut remarquer des cannes à sucre face au bureau du gardien et au fond, 2 arbres énormes et séculaires. Le premier est un cyprès et le deuxième, une espèce d'acacia, Macaerium, bicentenaire de 26 mètres de hauteur selon le département des forêts. Le château actuel fut érigé en 1454 lors de l'époque du grand commandeur Louis de Magnac. Construit en pierre calcaire taillée, le château mesure 21 mètres de haut. Ses 4 côtés mesurent 16 mètres de long chacun à l'extérieur et 13,50 mètres de long chacun à l'intérieur. Les vestiges du château original du XIIIe siècle sont situés à l'est, au sud et au sud-ouest du monument. Parmi les vestiges, il faut mentionner le puits. Le château fut reconstruit suite aux dommages causés par les attaques des Mamelouks qui ont duré 1 an jusqu'en 1426 selon J. Jeffrey. Le château actuel, très bien construit pour des raisons de sécurité, est considéré comme imprenable. En haut, sur la façade, on peut voir la zematistra, une bretèche permettant le jet de l'eau ou de l'huile bouillante sur les assaillants, et plus bas, l'entrée, avec les marches en pierre et le nouveau pont-levis. Le château comprend 3 étages. Le rez-de-chaussée est réparti en 3 pièces voûtées qui communiquent entre elles par des portes en ogive. Sur le sol, on peut voir les bouches des citernes d'eau. Un escalier intérieur de 24 marches mène au 2e étage qui est composé de 2 pièces. La pièce de l'ouest abrite une immense mais simple cheminée qui révèle l'existence d'une cuisine. Dans la pièce de l'est, on peut admirer la peinture murale du XVe-XVIe siècle ornant le mur sud et représentant la crucifixion avec la Vierge Marie à gauche et Saint Jean à droite. Au bas de la peinture, à gauche, on peut voir l'écu, une fleur de lys, du propriétaire du château, Louis de Magnac. La peinture murale a été récemment restaurée par le département des Antiquités de Chypre et elle est protégée par une vitre. Un escalier intérieur tournant, en pierre, de 33 marches, donne accès au 3e étage qui est aussi composé de 2 pièces. La première pièce devait être utilisée comme salle à manger et la deuxième comme chambre à coucher. Ces 2 pièces sont dotées de grandes cheminées dont le manteau est orné de l'écu de Louis de Magnac. les cheminées sont décorées de façon très soignée dans le style des châteaux des chevaliers de Rhodes. Les deux pièces sont très lumineuses grâce à 8 fenêtres. Devant chaque fenêtre, on peut voir des sièges encastrés, tandis que le mur du nord abrite un cabinet. Un autre escalier intérieur tournant de 35 marches mène à la terrasse où on peut voir la Bretèche et ses 19 meurtrières. N'oublions pas de nous arrêter un instant pour admirer la vue. Au sud s'étendent les vignobles, des plantations d'agrumes, le lac salé de l'Emesos et les eaux bleues de la Méditerranée. Au nord, on distingue le village de Colossi et au fond, le massif de Troodos. En bas, au sud du château principal, se trouve une cour entourée d'un mur. Au sud-ouest du château, on peut voir les vestiges d'un édifice annexe qui devait servir de remise et d'étable. À l'extérieur, sur la face orientale, on peut aussi admirer un caisson cruciforme à moulure. En haut, au centre, la plaque de marbre est ornée d'une couronne. L'écu central en forme de bouclier, écartelé, représente les armoiries complètes de la maison des Lusignans de Chypre de cette époque. En détail, à haut à gauche, au quartier 1, on peut voir la croix de Jérusalem, une croix potencée cantonnée de 4 croisettes. En haut à droite, le quartier 2 représente les armes passées de la maison des Lusignans. Burelet a un lion de gueule, armé, couronné, brochant sur le tout. En bas à gauche, le quartier 3 en or représente le lion de gueule adopté par le royaume de Chypre. Et en bas à droite, le quartier 4 en argent représente le lion rouge de gueule adopté par le royaume de la Petite Arménie, région de l'actuelle Cilicie. On constate donc que dès 1393, le roi de Chypre était aussi roi de Jérusalem et de la Petite Arménie. Les mêmes armoiries sont aussi représentées sur des pièces de monnaie de la maison de Lusignan. Les deux écus, occupant les branches de la croix, portent les armes des deux grands maîtres de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1454. Celle du maître élu Jacques de Milly, à gauche, et celle du maître sortant, Jean de Lastic, à droite, ainsi que les armes du propriétaire du château, Louis de Magnac, au registre inférieur. Il n'y a pas d'autres armoiries. Pourtant, le château de Colossi passa aux mains d'autres grands commandeurs, comme l'anglais John Langstrother et Nicolas Zaplana, après la décapitation de Langstrother en Angleterre. En 1488, la famille Cornaro devint propriétaire du château, selon l'historien français Louis de Malatry. Giorgio Cornaro, frère de la dernière reine des Francs, Catherine Cornaro, en fut le premier propriétaire. La commanderie de Colossi fut, pour une grande période, la possession la plus riche des chevaliers. Cela est évident par le fait qu'en 1468, la commanderie fut obligée de verser annuellement 4000 ducats aux chevaliers de Rhodes. Au début de la domination vénitienne, 1489, la commanderie possédait encore 41 villages équivalents à une rente annuelle de 8000 ducats. Après la conquête de l'île par les Turcs ottomans, en 1571, la famille Cornaro perdit sa propriété. Pourtant, elle maintint le titre du grand commandeur. La famille de Cornaro disparut en 1799. Mais le comte Mocenigo prétendit au titre en tant que mari de l'héritière de la famille. Le 18 septembre 1959, un an avant l'indépendance de Chypre et la fin de l'occupation britannique, le château de Colossi retrouva un peu de sa splendeur passée grâce à une cérémonie majestueuse organisée dans sa cour. La réception a réuni 300 invités, dont le gouverneur de Chypre, Sir Hugh Foote, le premier lord de l'ordre de Saint-Jean, remit les insignes de chevalier. Les trompettes sonnèrent du haut des tours et la cérémonie fut impressionnante. L'ordre opère sur l'île de Chypre depuis 1926, œuvrant à des fins de bienfaisance en collaboration étroite avec le département des services médicaux. Le château est un monument ancien classé qui relève de la première liste des biens publics. Il est la propriété du département des antiquités qui effectue chaque année des travaux d'entretien. Depuis 1992, des fouilles se déroulent sur le site de la sucrerie médiévale, notamment à l'est du château. La sucrerie est une construction oblongue voûtée du XIVe siècle, construite en pierre calcaire taillée et dotée d'une voûte pointue et d'ouvertures ogivales sur ses trois côtés. La sucrerie couvre une superficie totale d'environ 150 mètres carrés. Au nord, on distingue les vestiges du moulin à sucre et plus loin, s'étend l'aqueduc. Mais comment fonctionnait cette raffinerie du Moyen-Âge? Le moulin requérait beaucoup d'eau. Il était fourni par un aqueduc alimenté par les eaux de la rivière Couris. La force motrice de l'eau était utilisée pour actionner la meule broyant les cannes à sucre. Auparavant, il fallait éplucher les cannes et les couper en menus morceaux. Le même processus était suivi à Venise, selon El Lazzarini. Puis, il fallait passer les tiges dans une presse. Le jus coulait dans de grandes chaudières sur des feux foyers. Selon les archéologues qui poursuivirent les fouilles sur ce site, il fallait chauffer le jus, la mélasse, deux ou trois fois, jusqu'à obtenir du sucre de deux ou trois qualités différentes. Plus le jus était chauffé, plus le sucre était blanc. Cela est aussi indiqué dans les différentes jarres en terre cuite. Le sucre était donc versé dans les petites jarres à travers une trémie en terre cuite. Ce processus était également utilisé aux sucreries de Kouklia, de Palais Paphos et au moulin à sucre d'Épiscopie, au lieu dit Seraya. Des plantations de canne à sucre existaient sur l'île de Chypre depuis le Xe siècle. Pourtant, au XIIIe siècle, elles ont connu un véritable essor. Une grande partie du sucre produit fut livrée à la famille commerciale vénitienne de Martigny. D'autres régions de l'Orient, comme l'île de Rhodes, la Syrie et Alexandrie, étaient aussi productrices de sucre. Pourtant, Francesco B. Pegolotti signale que le sucre en poudre de Chypre était de qualité supérieure et qu'il était hautement apprécié. Les tremblements de terre qui ont secoué les Messos en 1567 et en 1568 ont provoqué des dégâts importants à la sucrerie, qui, selon l'inscription gravée sur le mur extérieur méridional, fut restaurée en 1591 par le pacha de Chypre, Mourat. Les fouilles qui se déroulent sur le site indiquent que pendant une période, au cours de la domination ottomane et même de la domination britannique, le moulin devait être utilisé comme moulin à farine. D'après les témoignages des visiteurs étrangers de l'époque, la culture des cannes à sucre se poursuivit jusqu'à la première décennie du XVIIe siècle, car les descriptions pour la période ultérieure ne mentionnent que des plantations de coton et de soie. En particulier, le Hollandais Cornelis van Bruin, venu à Chypre en 1683, se réfère aux plantations de soie à Épiscopie et aux riches plantations de soie et de coton à Kouklia. Un autre monument important est situé à 100 mètres à peine du château. Il s'agit de la petite église byzantine d'Aios Estathios du XIIe siècle, qui a subi diverses modifications au cours du XVe siècle. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem devaient se rendre à cette église, car en 1936, d'après l'inspecteur britannique des Antiquités, Rupert Gurnis, la voûte portait encore les armoiries du grand commandeur de l'ordre, Louis de Magnac.